L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous. Une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme Ardèche. L'Europe du côté de chez nous. Une émission qui présente ce que fait l'Europe sur nos territoires, en donnant la parole aux femmes et aux hommes de Drôme et d'Ardèche, engagés sur des projets en lien avec l'Europe. Cette émission vous est présentée par Ardiana Tosca, enseignante spécialisée sur les questions européennes, et Anna Gasquet, responsable du Centre d'information Europe Direct Drôme Ardèche. Bonjour Anna.
Bonjour Ardiana.
Bienvenue à cette 7e émission de l'Europe du côté de chez nous. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Anna ?
Alors aujourd'hui, on a deux dossiers sur lesquels on va s'arrêter un petit peu plus. D'abord, le Brexit, cette histoire épineuse, ce feuilleton épineux
tout
même.
À fait.
Et ensuite, tu vas nous parler un petit peu plus ?
Oui, des Balkans occidentaux, surtout voilà, l'élargissement de l'Europe aux Balkans occidentaux. Ce sera notre deuxième sujet.
Très bien. Alors, pour commencer, justement, comme nous l'annoncions, le Brexit, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, où est-ce qu'on en est, Ardiana ? Puis ensuite, nous accueillerons notre invité du jour.
Justement, c'est une période décisive dans les négociations post-Brexit. Les Britanniques ont fait beaucoup d'agitation, surtout le Premier ministre Boris Johnson, de perturbations et parfois même des provocations. Mais pour savoir, pour avoir un éclairage, un meilleur éclairage sur ces négociations, nous avons invité aujourd'hui un expert qui va nous expliquer un petit peu ce qui se trame entre l'Union européenne et Londres.
Bonjour Alain, donc merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Donc Alain Malégari, pour vous présenter, vous êtes donc conférencier, membre du réseau européen Team Europe, le réseau qui est labellisé par l'Union européenne. Vous êtes ancien directeur de l'Institut de l'Euro et actuellement également, entre autres choses, vice-président de la Maison des Européens de Lyon.
Bonjour à vous, merci.
Bonjour, bonjour Alain. Alors, justement, Ardiana, est-ce que tu veux commencer par poser ces quelques questions que tu as préparées ?
Oui, tout à fait. Justement, j'ai une première question par rapport aux négociations. Où on en est entre Londres et Bruxelles avec les négociations ? Et quelles sont les différences principales entre les Britanniques et l'Union européenne ?
Bien, en fait, la situation est quand même difficile. Et j'espère pas critique, mais quand même très difficile, puisque depuis le début de l'été, les négociations sont en panne. Et pourtant, malgré la pandémie mondiale, malgré la période estivale, les négociations ont continué, puisque on a fait depuis le mois d'avril, et y compris l'été, on a fait quand même 7 rounds de négociations. Et de fil en aiguille, les conditions se sont durcies. Et il faut le dire quand même, c'est du côté essentiellement britannique, jusqu'au point de revenir sur l'accord préliminaire qui avait été pourtant voté, y compris à la Chambre des communes britannique, au mois de décembre 2019. Cet accord préliminaire était essentiel pour déclencher après tous les accords commerciaux, accords de libre-échange dont il s'agit maintenant aujourd'hui, accord préliminaire qui sauvait l'accord entre les deux Irlandes, celle de l'Union européenne et qui entendait le rester, et puis bien sûr l'Irlande du Nord, surtout pas de frontières, puisque ça aurait été dramatique de revenir sur les accords dits du vendredi saint de 98, sur les accords sur la citoyenneté, puisqu'on aurait eu de part et d'autre, hein, et il y a beaucoup de Britanniques qui sont en Europe, et il y en a beaucoup qui sont, il y a beaucoup de citoyens européens qui sont au Royaume-Uni. On aurait évité des visas durs ou des passeports durs, et puis le troisième point de cet accord préliminaire, c'était que le Royaume-Uni, bien en s'en allant, règle toutes ses cotisations. Il y a des programmes qui courent jusqu'en 2021 et tout, et il avait à peu près une facture, si je puis dire, globale de 45 milliards.
D'accord.
Tout ça a été voté, y compris par la Chambre des communes, à une large majorité, et voilà qu'aujourd'hui, et depuis plusieurs semaines, le Premier ministre Boris Johnson revient dessus. C'est absolument incroyable. Et ne bouge plus d'un poil sur l'accord commercial. En fait, ils veulent bien prendre des avantages du marché unique,
oui.
C'est-à-dire le libre-échange commercial, mais ils ne veulent plus respecter du coup les normes sanitaires, les normes phytosanitaires, sécuritaires, oui. Édictées par l'Union européenne.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement quelle est la position ici en fait de chaque camp, d'un côté le Royaume-Uni et de l'autre l'Union européenne? Comment on peut définir ces positions?
Côté Royaume-Uni, là, on est à cet instant précis aujourd'hui, même si je reste désespérément ou raisonnablement quand même un petit peu optimiste, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est complètement bloqué. C'est-à-dire que à tel point que le Premier ministre Boris Johnson voulait même arrêter purement et simplement, à demain 15 octobre, toute négociation, alors que l'Union européenne souhaite les continuer jusqu'au 30 octobre,
oui.
Qui laisse d'ailleurs pas non plus une marge de manœuvre énorme. Et Michel Barnier, pas plus tard qu'hier, le négociateur
en chef de l'Union européenne,
pour l'Union européenne, a confirmé hier qu'il était tout prêt à aller jusqu'au 30 octobre, c'est-à-dire à se donner 15 jours de plus.
Mais pourquoi ce blocage alors?
Les blocages pour des raisons souverainistes, pour ne pas dire nationalistes. Boris Johnson a le vent en poupe, il a gagné, il faut le reconnaître, il a gagné les élections de décembre 2019, il a quand même une majorité à la Chambre des communes de 80 sièges, donc il surfe là-dessus. Il y a beaucoup de tensions, moi je lis beaucoup de papiers sur les raisons, le mental des Britanniques aujourd'hui, tout le monde en a marre.
Leur perception.
Tout le monde en a marre.
D'accord.
Que ce soit
ils
la
veulent
classe,
en finir, quoi.
Politique, que ce soit les citoyens, que ce soit les médias, ils préfèrent même pas un mauvais accord, ils préfèrent no deal,
en
pas
finir.
D'accord du tout,
ouais.
Pour en sortir le plus vite possible.
D'accord.
C'est ça le vrai problème, et Boris Johnson surfe un peu sur cette vague-là, ce qui est catastrophique pour eux et qui ce sera très problématique aussi pour nous.
Mais quels sont les risques? Quels sont les risques alors de sortir sans accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni?
Ah ben alors les risques alors sont vraiment incroyables. En fait ça on les avait déjà identifiés depuis au moins 4 ans que le feuilleton existe. D'abord sur des chiffres. C'est incroyable parce que ça a été confirmé par l'OCDE, confirmé par toutes les banques centrales, etc. C'est à peu près 500 000 no deals égale 500 000 chômeurs de plus au Royaume-Uni. Mais par exemple, 50 000 de plus en France. Il faut le savoir. Et pas que dans le secteur de la pêche. C'est-à-dire, des deux côtés, on va trinquer, mais on va beaucoup plus trinquer, je me console pas, hein. On va beaucoup plus trinquer du côté quand même britannique que du côté européen.
D'accord.
Mais dans l'Union européenne, je pense que les Français, et les Belges d'ailleurs, à commencer par la pêche, il n'y a pas que ça. Pour revenir sur la pêche en France, comme vous savez, les pêcheurs français, comme d'autres d'ailleurs, sont très endettés par des bateaux, etc. Il se trouve que les eaux poissonneuses sont, et hasard de la géographie, hein, sont sur les côtes anglaises. Donc si on est vraiment, s'il n'y a aucun deal, eh bien on se retrouve comme non européen, donc on n'aura pas du tout plus le droit d'accéder, puisqu'il n'y aura plus de marché intérieur, on n'aura plus le droit d'accéder. Alors il y a deux solutions. Solution dure qui n'a pas été complètement d'ailleurs écartée par le gouvernement britannique, ce qui m'affole. Solution dure, c'est on n'accueille même pas les bateaux de pêche belges, français,
néerlandais,
et même d'autres, européens. Autre truc, autre solution, on les accepte, mais à nos conditions, puisqu'il n'y aura aucun accord avec l'Union européenne, et des conditions drastiques, des conditions de surquota. Alors l'Union européenne a bon droit d'ailleurs pour sauver les réserves halieutiques, a elle-même émis des quotas depuis longtemps. Mais là, il y aurait des surquotas, et surtout, chaque ça s'appelle des paniers, chaque panier pêché, quel que soit le poisson, aurait des taxes démesurées. Si bien
D'accord.
que ça devrait être intenable pour les bateaux.
Donc le secteur de la pêche sera énormément impacté. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui seront très exposés par...
Le secteur de l'automobile, parce que si on met des droits de douane sur sur les importations de voitures, mais c'est pareil. Quand on sait que les marges de manœuvre pour les automobiles sont serrées, ça impacte côté français, hein, mais je pense aussi aux autres quand même. Mais côté français, ça impacte tous les vins, les spiritueux, les produits agricoles. On exporte énormément de produits agricoles sur le Royaume-Uni. Les médicaments, c'est d'actualité. Il y a 50 000 chômeurs en France. Donc des conséquences quand même économiques et sociales fortes. On perd 3 milliards quand même de recettes d'exportation de la France vers le Royaume-Uni.
D'accord.
Mais pour eux, c'est encore pire parce que le Royaume-Uni, et c'est là où c'est quasiment suicidaire, le Royaume-Uni, il faut le dire et le répéter, exporte à 60% de ses produits vers l'UE. 60% de ses produits vont vers l'UE, alors que côté UE, exportation au Royaume-Uni n'est que 8%.
D'accord.
Donc il y a des gros dégâts, il y a quand même des gros dégâts.
Oui, et Monsieur Malégari, est-ce que l'Europe veut un accord à tout prix ou bien on est prêt à suspendre aussi les négociations commerciales? Mais dans ce cas, est-ce qu'on ne ferait pas le jeu de Londres?
Oui, alors c'est une très bonne question que vous posez là, parce que jusqu'à ces dernières semaines, j'ai suivi ça d'assez près, jusqu'à à peu près au mois fin août, l'Europe était prête selon d'ailleurs des déclarations tout à fait officielles de Michel Barnier, le négociateur en chef, et puis de toute son équipe, était prête à faire un compromis. Ça s'est tellement dégradé du coup, on est tellement déçus de notre côté aussi européen, que depuis septembre, c'est clair, c'est de dire finalement c'est le pire des solutions, mais il vaut mieux encore peut-être la pire des solutions, pardon, mais il vaut mieux encore un no deal qu'un accord vraiment de compromis. Parce que le problème c'est ça, c'est qu'ils ne veulent plus respecter les normes sur les produits, donc on peut pas s'entendre, quoi. Là, on peut pas s'entendre parce que ça serait totalement détruire l'ADN, l'alpha et l'oméga du marché unique, c'est pas possible.
D'accord. Bon, on voit que c'est une situation bien épineuse, donc on en saura plus dans les prochains jours, avec éventuellement jusqu'au 30 octobre, cette échéance, pour savoir si on va arriver à quelque chose, quelques accords d'ici là. Sinon, on manquera pas, en tout cas, avec Ardiana, de vous donner des nouvelles de cette, entre guillemets, saga du Brexit. Merci beaucoup,
merci beaucoup,
Alain,
pour cet éclairage très fin, pertinent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci. Merci. Oh non, pas merci. Et donc maintenant, une petite pause musicale justement à l'honneur de la Grande-Bretagne avec Harry Styles qui nous chante Signs of the Times.
Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Just stop your crying, it'll be alright. far away from here. We never learned we'd be near before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned we'd be near before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away.
Et on vient d'écouter Harry Styles avec cette belle chanson « Sign of the Times » où il transmet un très beau message et nous appelle à ne pas nous apitoyer sur notre sort, à apprendre de nos erreurs et à avancer.
Ah, c'est beau.
Très beau message, Anna. Passons maintenant à l'agenda du Centre Europe Direct. Quelles sont les principales activités que le Centre Europe Direct propose pour les mois à venir ?
Oui, alors, donc Europe Direct de Rome Ardèche, on a pas mal d'événements en prévision. Alors, des événements qui, comme pour tout le monde, vont peut-être dans les prochaines semaines et les prochains mois subir aussi des transformations. Certains seront peut-être obligés d'être en ligne si petit à petit il y a des restrictions sanitaires un petit peu plus compliquées. Mais bon, pour l'instant, on y croit encore. Et pour vous annoncer, donc d'abord, je commencerai par décembre. On a notre grand rendez-vous annuel pour la mobilité des jeunes qui aura lieu le jeudi 3 décembre, le Forum Jeunesse en Mouvement. Donc, c'est vraiment le grand forum de la mobilité, de tous les dispositifs pour les jeunes, pour partir voyager, travailler, faire un stage, du volontariat à l'étranger. Donc, ça, c'est, voilà, c'est vraiment...
Ce sont nos meilleurs ambassadeurs, d'ailleurs. Oui. Comme dit le ministre de l'Europe, Clément de Beaune, il dit que voilà, c'est ces jeunes qui partent à l'étranger, qui font leur expérience, sont justement les meilleurs ambassadeurs des pays européens.
Oui, exactement. Et nous, chaque année, on organise avec une trentaine de partenaires de Drôme Ardèche ce forum pour justement permettre à tous les jeunes qui le souhaitent de venir prendre les informations sur les dispositifs qui existent, les bourses qu'ils peuvent obtenir et comment on peut les accompagner dans cette envie de voyager, d'apprendre une langue, d'aller faire une expérience à l'étranger. Donc voilà, on vous donne rendez-vous le jeudi 3 décembre. Ce sera au pavillon des congrès de Valence. Et puis, il y aura également une version en ligne pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou aussi qui ne pourront pas se déplacer pour des raisons sanitaires, de pouvoir assister à tout cela en ligne. Ce sera également avec nos partenaires justement de Radio BLV, de Déclic Radio. On sera aussi retransmis en direct à la radio et puis également sur YouTube. Donc voilà, il n'y aura pas de raison de rater cet événement.
Parfait. Et le deuxième événement, Anna ?
Alors, au mois de novembre et décembre, nous aurons également des journées, des ateliers de formation, là plutôt à destination des professionnels qui accompagnent les jeunes, toujours sur les questions de mobilité et de citoyenneté européenne. Ce sera à destination des enseignants, des acteurs animateurs jeunesse, conseillers jeunesse. Et là, ce sera des journées qu'on va co-organiser avec le Centre d'information régionale pour la jeunesse. Ce sera en Ardèche, à Annonay, à Privas et à Aubenas. Trois dates, le 20 novembre, le 9 décembre et le 17 décembre. Trois demi-journées pour vraiment se former sur tous les dispositifs de mobilité qu'on veut pour accompagner d'autres jeunes. Se former aussi sur des outils pour pouvoir animer des activités, des interventions en classe ou dans des MJC pour parler d'Europe, pour parler de mobilité aux jeunes. Donc ça, voilà, des journées de formation à destination des professionnels.
Bien, donc c'est une formation à but pédagogique.
Et pédagogique, voilà, gratuite, bien
gratuite.
Sûr. Voilà. Après, comme d'habitude, vous retrouvez toutes ces informations sur notre site web et sur notre page Facebook. Il y a également des formulaires pour s'inscrire en ligne sur chacun de ces événements.
Bien, et après, il y a un autre événement que le Centre Europe Direct propose pour le mois de novembre.
Voilà, tout à fait. Alors, donc là, en se rapprochant un petit peu de la date, ce sera le 6 novembre, le vendredi 6 novembre à Valence, au Centre du patrimoine arménien. Nous allons accueillir une très belle table ronde autour des questions des Balkans occidentaux. D'ailleurs, le titre est « Balkans occidentaux et Europe, est-ce qu'il y a un avenir commun ?» Parce que voilà, tu vas nous en parler un petit peu plus là, dans notre dossier du jour, mais cette question de l'élargissement de l'Union européenne...
Voilà, elle continue d'être posée, mise sur la table, et l'Union européenne, de toute façon, n'a pas arrêté d'affirmer que les Balkans occidentaux font partie de l'Union européenne, les citoyens des Balkans occidentaux appartiennent à l'Union européenne. Donc la politique, le processus d'élargissement se poursuit avec plus de crédibilité qu'avant.
Voilà, c'est pour cela du coup que nous avons invité trois experts de la question. Loïc Trégourès, qui est maître de conférences, enseignant à l'Institut catholique de Paris, expert des questions des Balkans occidentaux. L'eurodéputée Gwendoline Delbos-Corfield, qui fait partie de la commission.
Oui, tout à fait, parlementaire de stabilisation et d'association Union européenne et Serbie. Et après, on aura notre troisième invité, Myric Lapote, députée de la Drôme, de la République En Marche, membre de la Commission des affaires étrangères et surtout présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Albanie.
Voilà, donc trois personnalités vraiment expérimentées sur ces questions de lien entre la France, l'UE et les différents pays des Balkans occidentaux. Donc ce sera une table ronde à laquelle nous vous convions au Centre du patrimoine arménien le vendredi 6 novembre de 18h à 20h. Mais elle sera également retransmise à la radio sur les ondes de radio BLV et également retransmise en ligne. Là aussi, vous pourrez la suivre en direct sur YouTube. Mais justement, autour de cette question des Balkans, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Ardiana, sur l'état des lieux de cet élargissement,
processus d'élargissement ? Tout à fait. Justement, les six pays des Balkans occidentaux, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo ne sont pas... tous ces pays-là ne sont pas au même degré d'intégration à l'Union européenne. Pour deux pays, la Serbie et le Monténégro, il y a déjà une ouverture des négociations, alors que l'Albanie et la Macédoine du Nord attendent encore l'ouverture des négociations par rapport à l'Union européenne.
Tout le monde n'est pas au même niveau,
d'intégration. Donc, mais pourtant, le processus d'élargissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se poursuit. Et le 6 octobre, la Commission européenne, dans son rapport annuel sur l'élargissement de l'Union européenne, a envoyé un message clair aux pays des Balkans occidentaux. Leurs citoyens, ces pays-là, appartiennent à l'Union européenne. Donc, il y a une nouvelle politique d'élargissement. Pas besoin d'ouvrir 35 chapitres maintenant. Le nouveau processus passe par cette étape où la démocratie, l'état de droit, le respect des minorités et leur protection continuent d'être des axes prioritaires. De toute façon... l'investissement de l'Europe aux pays des Balkans occidentaux est un investissement géostratégique en faveur de la paix, de la sécurité et de la croissance économique de toute l'Europe. De leur côté, les pays des Balkans occidentaux doivent accomplir des réformes très importantes, surtout voilà, l'Albanie et la Macédoine du Nord, pour justement des réformes de fond par rapport à l'état de droit. D'accord. Et contre deux fléaux principaux, la corruption et toujours la criminalité organisée, et la réforme juridique reste les priorités essentielles surtout pour l'Albanie.
D'accord.
Mais je voulais aussi souligner le fait que ces pays des Balkans occidentaux restent motivés pour continuer leur intégration au sein de l'Union européenne. Et d'ailleurs, face à la pandémie, le gouvernement albanais, il a été en première ligne, il n'a pas manqué de contribuer à la solidarité institutionnelle et humaine européenne. 60 médecins et infirmiers ont été envoyés en Italie, étant donné que c'était le pays le plus touché. Voilà, il y avait une très belle solidarité. Et d'ailleurs, de l'autre côté, l'Union européenne a mobilisé 410 millions d'euros pour les Balkans occidentaux. Donc, les Balkans occidentaux font déjà partie de l'Union européenne du point de vue politique, économique. Ils sont déjà dans l'Union européenne.
D'accord.
Mais les réformes, l'orientation va devenir plus proche et plus précise. Suisse.
Très bien, mais merci beaucoup pour cet éclairage à Ardiana. Et puis pour en savoir plus, voilà, on vous invite à nous rejoindre, soit au Centre du patrimoine arménien, soit en ligne ou sur les ondes de Radio BLV, le vendredi 6 novembre, pour cette table ronde « Balkans occidentaux et Europe, un avenir commun ». Eh bien justement, en honneur des Balkans occidentaux, on va à 18h, bien sûr, le vendredi 6 novembre à 18h.
À 18h, tout à fait.
J'ai oublié de le préciser. Pour continuer sur les Balkans occidentaux, on a choisi un morceau...
Oui, de Goran Bregovic, voilà, du chanteur, voilà, le fameux auteur-compositeur bosniaque d'origine serbe qui est très connu. Hein, il a un style musical très connu d'ailleurs, oui, parce qu'il a fait la bande originale pour ses fameuses collaborations avec
Emir Kusturica.
Emir Kusturica et la bande originale du film Le Temps des Gitans. C'est un chanteur qui a donné 3000 concerts et qui a fait, ouais, justement fait connaître
qui est exceptionnel
musique,
sur scène.
Voilà, exceptionnel, ouais, sur scène. Il a une préférence, il est fasciné par la musique gitane. Ouais. Je vais prononcer le titre de la chanson. Ce n'est pas toujours facile avec la suite des consonnes, mais je vais y arriver. C'est Moi Psia Sialou. Moi Psia Sialou, qui veut dire mon ami.
Mon ami.
Écoutons Goran Bregovic.
Przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód i dawna głową, a do sypialni wszedłeś sam. Mój przyjacielu, przyprowadziłem cię z ulicy. Nakarmiłem i odziałem cię. Mój przyjaciel, jak wyrazić to, co czuję? Jak wytłumaczyć, czym jest dla mnie przyjaźń twa?
Nie do odrzucenia. Sorry, Gregory.
Voilà, c'était Goran Bregovic en duo avec Krzysztof Krawczyk. Voilà, maintenant, on passe à notre petite minute en direct de Bruxelles.
En direct de Bruxelles.
Une très bonne nouvelle pour une ville voisine, Grenoble, Anna, qui a été choisie parmi les 18 candidates pour devenir capitale verte européenne, wow, de l'année 2022.
Félicitations à Grenoble.
Très bonne nouvelle, oui. C'est un prix qui récompense chaque année. Depuis 2010, les villes pionnières en matière de mode de vie urbain respectueux de l'environnement.
D'accord. Et alors, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour obtenir ce prix, ce label de capitale verte européenne?
Alors, 12 indicateurs, Anna, pour identifier toutes les municipalités qui font preuve d'un bon bilan environnemental.
D'accord.
Donc ici fait partie la gestion de l'eau, des déchets, du bruit, de la qualité de l'air et de la performance énergétique. Et après, il y a un jury de 12 experts qui considèrent justement ce bilan. Et la Grenoble, la ville française, a été saluée pour son très fort engagement en faveur d'un changement systémique et d'une approche innovante de la démocratie participative dans la gouvernance de la ville.
D'accord. Mais actuellement, qui est cette capitale verte européenne?
Alors, ah oui, actuellement, c'est une ville en Finlande, la ville de Lahti. C'est une ville qui se trouve à une centaine de kilomètres de la capitale Helsinki.
D'accord.
Elle fait partie des 10 plus grandes villes de la Finlande et elle a des initiatives très intéressantes au niveau de la protection de l'environnement.
D'accord. Je crois qu'ils sont très, très forts dans la valorisation des déchets, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. Ils ont construit une centrale de bioénergie au sein de laquelle les déchets de la ville sont transformés en électricité et presque 80% des déchets Anna sont déjà des déchets ménagers qui sont recyclés. Alors que, tu sais, en France
et en Europe,
et en Europe surtout, on est dans une moyenne de 45%.
Waouh, donc eux, ils arrivent jusqu'à 90%.
Oui, c'est excellent. Donc voilà, c'est d'une efficacité extraordinaire.
D'accord. Et sinon, je crois qu'aussi, ils sont bons dans d'autres domaines, le transport, la mobilité, c'est pas ça?
Tout à fait, ils ont un grand projet autour du transport et de la mobilité. En effet, la ville de Lahti récompense tous ceux qui, les citoyens qui remplacent leur trajet en voiture par des moyens de transport plus respectueux de l'environnement. Et tu sais ce qu'ils ont trouvé? Justement, la ville utilise pour ça une application mobile qui décerne des pièces virtuelles.
Des bons points, quoi.
Voilà, des bons points, tout à fait, pour les utilisateurs qui choisissent les transports en commun, le vélo ou bien encore la marche. Et
d'accord.
Avec ces pièces virtuelles, de toute façon, ils peuvent acheter des tickets de bus ou des billets pour accéder à des centres sportifs.
Oui, comme quoi, même en plein milieu de la Finlande, quand il fait moins 15, on marche en vélo, on marche dans la ville. Et il fait pas besoin d'être à Rome ou à Marseille pour opter pour les transports en commun plutôt que la voiture.
Voilà, ce sont vraiment de très belles initiatives de la ville qui est déjà... elle est connue aussi, la ville, pour accueillir chaque année la Coupe du Monde du saut de ski.
Bon,
donc
parfait,
la ville de Lahti a bien porté cette appellation de ville verte pour l'année 2020.
D'accord, très bien. Donc, bravo à Grenoble, ce sera en 2022, donc elle sera capitale européenne verte. S'achève notre émission du mois d'octobre.
Donc, on vous donne rendez-vous pour le mois de novembre et surtout pour notre activité très importante le 6 novembre, les Balkans occidentaux et l'Union européenne, un avenir commun.
Voilà, donc le vendredi 6 novembre à 18h, entre 18h et 20h, on sera donc en présentiel au Centre du patrimoine arménien à Valence. Si vous voulez venir rencontrer nos intervenants, la députée européenne Gwendoline Delbos-Wakorfield, Mireille Clapeau, qui sera là pour représenter en tant que députée l'amitié franco-albanaise.
Le groupe d'amitié, voilà. Tout à fait, franco-albanais. Et Loïc Trégourès, qui est enseignant en Sciences Po et un vrai spécialiste des Balkans.
Très bien. Ce sera également pour ceux qui ne pourront pas se déplacer en direct sur les ondes de Radio BLV et également pour nous suivre en ligne sur YouTube. Voilà. Écoute, merci beaucoup Adiana pour ce nouveau rendez-vous.
Merci Anna. On se donne rendez-vous le mois prochain, en mois novembre, pour la 8e émission de l'Europe du côté de chez nous.
Au revoir, arrivederci.
Au revoir, arrivederci, ciao.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous. une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme-Ardèche.